L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Cette année, nous connaissons un été avec des épisodes de chaleur particulièrement intenses. Depuis mai, une canicule par mois. Alors bien sûr, qui dit été dit aussi vacances. Mais dans un tel contexte, il est important de prendre certaines précautions. Nous recevons donc Fabien Gaillet, responsable communication de la CPAM de la Sarthe, pour un point sur les réflexes santé à avoir pour se protéger de la chaleur. Bonjour Fabien Gaillet.
Bonjour.
Le bronzage sur la plage, est-ce que c'est bien fini ?
Alors, ce n'est pas forcément fini, mais c'est un bronzage avec lequel on va d'abord préparer une protection. Effectivement, être bronzé, ce n'est pas une protection en soi contre le soleil.
C'est-à-dire quand on a la peau bronzée, on n'est pas protégé du soleil.
Non, ça n'a rien à voir. C'est la peau qui réagit par rapport à une exposition, une surexposition au soleil, au rayon UV. Donc elle va brunir effectivement pour se protéger, mais ça n'est pas une protection contre les pathologies qui peuvent liées au soleil, comme notamment le cancer de la peau.
Et alors justement, chaleur et UV, est-ce que c'est forcément corrélé ? Est-ce que de très fortes températures comme celles qu'on connaît en ce moment, ça implique de très fortes expositions aux UV ou c'est un peu plus compliqué que ça ?
Alors là, je suis pas scientifique pour pouvoir évoquer tout ça, mais effectivement, souvent ce qu'on constate, c'est quand il y a des très fortes chaleurs, ça implique aussi des impacts UV beaucoup plus importants, notamment l'été. Et puis en plus, qui dit chaleur, en ce moment par exemple, il y a moins de vent, donc la pollution est aussi plus présente, ça a aussi un impact sur l'importance que les UV peuvent avoir sur nous.
Alors que dit la CPAM en cas par exemple où le temps se couvre un peu, où c'est un peu plus nuageux, on peut baisser la garde ?
Alors pas du tout justement, c'est pour ça qu'on est là aussi pour rappeler les conseils prévention pendant l'été. La prévention santé s'arrête pas à ce moment-là et il y a un certain nombre de choses qu'on oublie. Alors effectivement vous l'évoquez, quand il y a des nuages, quand il y a du vent, quand on est dans l'eau, on a tendance à faire moins attention, à moins se protéger alors que les UV nous touchent tout autant. Voilà, la protection solaire c'est la première protection à avoir pendant l'été. Face au soleil, même en cas de journée nuageuse.
Et quand on se baigne, que ce soit dans la mer ou dans la piscine, est-ce qu'on est autant exposé, moins exposé ?
La mer ou l'eau en soi peut avoir en plus un effet de miroir un petit peu avec les rayons du soleil et va avoir un effet encore plus intense.
Ça peut empirer
en fait. Ça peut empirer, oui.
Alors n'oublions donc pas notre crème solaire. Quel indice est-ce que la CPAM conseille d'utiliser et, est-ce qu'il y a une manière d'appliquer correctement la crème solaire pour qu'elle soit réellement efficace ?
Alors la crème solaire, déjà, il faut s'assurer qu'elle respecte bien les normes françaises et européennes. On est sur un indice minimum 30 pour des adultes, c'est le minimum. Hein. Maintenant, si vous pouvez mettre 50, c'est mieux. Pour les enfants, c'est 50. C'est une protection totale. Il y a deux choses auxquelles il faut faire très attention. Déjà, il ne faut pas ressortir les vieilles crèmes solaires qu'on avait il y a un an ou deux ans. Elles sont périmées la plupart du temps. Donc malheureusement, il faut racheter des crèmes solaires tous les étés, tous les ans.
Et même sur un an, on ne peut pas la réutiliser.
Non, à partir du moment où elle est ouverte, souvent, il y a une date de péremption qui est affichée sur l'emballage. Donc, il faut bien vérifier. Si la date de péremption est dépassée, on change sa crème solaire.
Parce que c'est quoi les risques concrètement d'utiliser une crème
solaire ? Que la protection soit moindre, qu'elle a plus l'effet escompté pour protéger la peau. Il n'y aura pas forcément de risque pour la peau en soi, mais par contre, elle n'aura peut-être pas d'utilité.
Et donc, il faut en mettre systématiquement dès qu'on s'expose dehors ?
Alors, on essaye d'en mettre plutôt 30 minutes avant d'aller s'exposer. Pour que la crème ait le temps de bien pénétrer. Et puis, toutes les deux heures, on essaye d'en remettre, remettre une couche.
30 minutes avant de s'exposer, donc il faut prévoir ses sorties quand même.
Ah oui, on ne met pas la crème au moment de l'exposition au soleil, c'est trop tard.
Ok, d'accord. C'est bon à savoir, effectivement. Ça implique quand même un certain budget crème solaire. Hein, vous l'avez dit, il faut racheter tous les ans, il faut racheter suffisamment pour pouvoir en mettre tout l'été. Est-ce qu'il y a éventuellement des solutions de repli pour ceux qui n'auraient pas ce budget, tout simplement ?
Alors, ça c'est un peu compliqué parce que là sur le budget en soi, on va pas avoir de rôle particulier à jouer. Le principal conseil que je peux donner, c'est déjà d'éviter de s'exposer sur les heures les plus chaudes ou les plus ensoleillées, qui sont entre 12 et 16 heures à peu près. De privilégier effectivement plutôt les fins de journée ou le matin, si vraiment on veut aller à la plage et rester à la plage sur un temps ensoleillé. D'éviter aussi l'exposition des enfants de moins de 3 ans par exemple. On voit un peu trop souvent sur les plages l'été des petits moins de 3 ans en culotte au soleil, même avec de la crème, ça reste dangereux pour des enfants de cet âge-là.
Et si malgré tout on attrape des coups de soleil, comment les soigner au mieux ?
Alors bah là, le problème, c'est que ça va dépendre de l'intensité de la brûlure. Si le coup de soleil est vraiment très très intense, là, je vous invite à aller à minima dans une pharmacie, voir chez votre médecin pour traiter la brûlure, parce que c'est une brûlure, c'est pas anodin. C'est une porte d'entrée aux bactéries, aux infections. Donc voilà, faut pas prendre les coups de soleil à la légère. Alors il y a des crèmes à appliquer éventuellement après les coups de soleil. Après, c'est aussi une bonne hydratation, qui est de toute façon le conseil qu'on donne en cas de forte chaleur. La protection supplémentaire qu'il va y avoir pour la peau, c'est l'hydratation, c'est elle qui va permettre à la peau de se protéger contre le soleil.
Mais alors justement sur cette eau, cette ressource qui n'est pas non plus à négliger, qui est même la plus essentielle, quelle quantité d'eau est-ce qu'il faut boire par jour pour être bien hydraté?
Alors il va pas y avoir forcément une quantité très précise parce que ça va dépendre des personnes, la façon de transpirer, etc. Mais normalement on doit être à 1,5 litre. À peu près 2 litres en temps normal. Là, en cas de forte chaleur, on peut rajouter 1 litre supplémentaire sur la journée. La difficulté quand il fait très très chaud, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre d'avoir soif. Il faut boire très régulièrement. Voilà, la déshydratation, elle ne se sent pas forcément au départ. Elle se sent une fois que c'est un petit peu trop tard, ou quand on commence à avoir des maux de tête, quand on commence à se sentir plus fatigué, assoupi, etc. Et là, on est déjà en déshydratation.
Et là, il faut commencer à contacter les urgences, j'imagine.
Alors, contacter les urgences, pas forcément tout de suite, mais là, si on commence à avoir effectivement des maux de tête, on va se sentir affaibli, avoir du mal à se lever, etc., là, on peut effectivement contacter le 15. C'est pas tant que vous allez aller aux urgences, mais le 15 va vous orienter vers un médecin de garde, vers des solutions à mettre en place vous-même si besoin.
Rappelons que l'été, tout le monde ne peut pas partir à la plage hein, ou partir en vacances. Ils sont plus de 40% de Français à ne pas partir en vacances chaque année. Alors, quand on reste chez soi, est-ce qu'il y a aussi des précautions à prendre pendant les fortes chaleurs, notamment pendant ces épisodes de canicule?
Bah alors, ce qui est difficile, c'est effectivement d'essayer de garder son domicile plutôt frais. Alors, ça ne va pas être possible pour tout le monde, mais voilà, de toute façon, il faut occulter les fenêtres tout au long de la journée. Ça, on ne peut pas laisser les fenêtres en plein soleil, c'est la première entrée de la chaleur. Si possible, avoir des ventilateurs. La climatisation, ce n'est pas accessible non plus à tous. Donc, le ventilateur, c'est déjà un bon outil. Et puis, d'essayer d'aérer aux heures les plus fraîches. Donc, pendant la nuit, il faut essayer d'aérer bien la maison pour faire rentrer l'air frais. Si possible, en faisant des courants d'air pour que l'air puisse circuler.
Il y a une température idéale à laquelle essayer de maintenir son logement pour justement que le sommeil soit bien réparateur, que...
Bah, le problème, c'est que pour le sommeil soit bien réparateur, la température idéale, ce serait plutôt autour de 19-20. C'est impossible dans ces périodes-là. Mais l'idéal, c'est d'essayer de faire descendre son logement, si possible, en dessous de 30. Ça, c'est déjà pas mal.
Et pour ceux qui ne le peuvent pas, parce que vous l'avez mentionné, effectivement, certaines personnes qui vivent dans des passoires thermiques, impossible de faire descendre le mercure en dessous de 30 degrés, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il vaut mieux quand même rester chez soi? Est-ce qu'il vaut mieux sortir?
Alors, s'il y a des solutions de repli, par exemple, si on a l'habitude de dormir à l'étage et qu'au rez-de-chaussée, il y a le salon et que c'est plus frais qu'à l'étage, bah, on essaye d'avoir ces solutions de repli, d'aller dormir dans son salon exceptionnellement pendant cette période-là. Alors, pour l'anecdote, il y a des personnes qui en profitent, qui dorment dans leur jardin, voilà, parce qu'ils retrouvent un peu plus de fraîcheur pendant la nuit. Donc, il faut pouvoir le faire, tout le monde n'a pas de jardin non plus. Non, pendant la nuit, la solution de repli, elle est très difficile à trouver. Si son logement, notamment si on a un appartement, il n'y a pas vraiment de solution de repli. Souvent, on se couche un petit peu plus tard, on est réveillé un petit peu plus tôt. Ça a un impact sur la santé parce que ça diminue la qualité du sommeil. Donc, il ne faut pas négliger ça aussi parce que ce sommeil-là, ce manque de sommeil, il va aussi avoir un impact sur l'organisme pendant la période de canicule, mais également les 1 à 2 à 3 semaines suivantes. L'organisme a besoin de récupérer très fortement ce manque de sommeil qui nous impacte pendant la canicule.
Sur le précédent épisode de canicule, l'hôpital du Mans recensait une vingtaine de cas d'hyperthermie par jour. Comment est-ce qu'on identifie les symptômes d'une hyperthermie pour pouvoir la prévenir au plus vite? On parlait de la déshydratation tout à l'heure, c'est la même chose, c'est deux choses différentes?
Alors là, moi je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans les symptômes qui pourraient faire en sorte qu'on... constater qu'on est en hyperthermie. Maintenant, quand il commence à y avoir des maux de tête, quand on commence à se sentir affaibli quand on se lève, si on commence à avoir des points noirs, sentir qu'on est au bord de l'évanouissement, c'est déjà tard. Voilà. Donc là, il faut appeler son médecin, il faut appeler le 15 pour être orienté vers une solution de prise en charge. Voilà. Mais premier appel, effectivement, l'hydratation, c'est le premier point auquel il faut faire attention pendant les fortes chaleurs.
Et on pense évidemment à ceux qui travaillent cet été sur du travail physique, agents d'entretien du bâtiment, mais aussi étudiants en job d'été. Voilà, prenez soin de vous également. Pensez à vous hydrater le plus possible. Je vous remercie, Fabien Gaillet, responsable communication de la CPAM de la Sarthe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.